Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Il est partout, sur terre comme dans les mers, jusqu'aux banquises ou au sommet des montagnes qui en ont livré la présence aux chercheurs. Le plastique est certainement l'une des inventions les plus révolutionnaires, mais sa nocivité sur la nature, les écosystèmes et la santé humaine en fait aujourd'hui un produit dont il faut se séparer, ou tout du moins qu'il nous faut reconsidérer dans notre quotidien. Parmi ses victimes directes, la Méditerranée, cette mer vivante, joyau de la nature avec ses récifs coralligènes, ces hotspots de la biodiversité, ces trésors de vie sous-marine, lieu de tous les plaisirs, mais aussi de tous les dangers qui la menacent. Le dernier rapport du WWF tire la sonnette d'alarme quand des plongeurs, des océanographes, des biologistes se penchent sur cette mer pour en recueillir la richesse encore préservée. C'est avec eux que nous allons diagnostiquer l'état de cette mer méditerranée et questionner les moyens de sa préservation. Bonjour Ludovic Frère-Escoffier.
Bonjour.
Vous êtes responsable du programme Vie des océans au WWF France et donc le WWF qui a publié ce rapport sur la pollution plastique en Méditerranée, donc tout récemment. À vos côtés, Laurent Balesta, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste de formation, spécialiste de l'écologie méditerranéenne, plongeur professionnel, photographe naturaliste, auteur, on peut le préciser, notamment du coffret DVD 700 requins dans la nuit, réalisé avec Luc Maresco, édité chez Arte, puis il y a aussi le livre du même nom, publié chez Andromède Océanologie, et vous êtes donc à l'aube d'une nouvelle expédition, Combessa 5, la cinquième aventure. On va en parler, une immersion de près d'un mois dans de grandes profondeurs en Méditerranée. On s'immerge avec vous, messieurs, pendant une heure dans cette émission, en partenariat avec la rédaction des pages Planète Science du journal Le Monde, préparée l'émission par Anaï Morales, avec toujours nos complices Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisé par Alexandra Malka avec à la technique aujourd'hui Jean Frédérix. Bonjour à tous et bienvenue.
On a des sacs plastiques, des canettes, des emballages.
Journée fructueuse, 1,5 tonne récoltée en quelques heures. La Méditerranée est la mer la plus polluée du monde. La France y est pour beaucoup. Parmi les 22 pays baignés par cette mer quasi fermée, c'est elle qui produit le plus de déchets plastiques, 4,5 millions de tonnes chaque année, soit plus de 66 kilos par personne. Si 98% sont collectés, 2% se retrouvent dans la nature, 11 000 tonnes dans la seule Méditerranée.
La mer Méditerranée est un joyau de la biodiversité. Avec moins de 0,1% de la surface de tous les océans, elle représente 10% de la faune et de la flore, de la richesse des océans. Aujourd'hui, elle est à bout de souffle.
Parmi les victimes de ces déchets plastiques, les cétacés comme ces rorquals de Méditerranée.
Les plastiques, ce n'est pas seulement quelque chose de mécanique qui peut être ingéré ou dans lequel les animaux peuvent s'enchevêtrer. C'est aussi des composés chimiques dont 4 d'entre eux sont à la fois reprotoxiques et des perturbateurs endocriniens, qui vont rentrer dans la chaîne alimentaire jusque dans le gras des baleines.
C'était un reportage diffusé sur France 3 le 8 juin dernier. On vous entendait d'ailleurs, Ludovic Frère-Escoffier. Puis il y avait aussi interviewé Denis Audy, responsable des cétacés en Méditerranée. Depuis l'an 2000, le monde a produit autant de plastique que toutes les années précédentes. Mmh. Un tiers de ces déchets se retrouvent dans la nature. Et si rien ne change, c'est ce que vous nous dites dans ce rapport de WWF, d'ici 2030, nous doublerons cette pollution de l'océan.
Oui, la situation est catastrophique et c'est vrai que nous avons voulu, avec ce dernier rapport sorti le 8 juin, faire un état de l'alarme qu'on peut ressentir au niveau de l'océan avec la Méditerranée, puisque 600 000 tonnes donc, de plastique se retrouvent chaque année dans la Méditerranée, l'équivalent de 34 000 bouteilles de plastique. Donc il y a des conséquences qui sont très importantes sur la faune et la flore, comme il est dit dans le reportage, avec des impacts, avec de l'enchevêtrement. On voit évidemment des tortues avec des sacs plastiques au milieu du cou, de l'ingestion donc de ces produits plastiques qui prennent la forme de petites billes microplastiques qui ont la particularité de concentrer la pollution chimique. Et ça, c'est particulièrement grave puisqu'elle va être ensuite ingérée, elle est rentrée dans la chaîne trophique et bien sûr dans la chaîne alimentaire.
Et donc venir dans nos propres corps, et pour l'instant, en l'état, on n'a pas encore d'ailleurs la connaissance des effets sur le corps humain, mais on soupçonne des effets nocifs et de développement de certaines maladies.
Oui, on peut dire dire déjà qu'on retrouve évidemment ces phtalates, donc on utilise pour rendre plus souples les bouteilles plastiques, on utilise également dans les cosmétiques, qu'on va retrouver le WWF, donc avec son expédition qui a cet acier à montrer jusque dans le gras donc des mammifères marins, et qui se retrouve sous la forme donc de perturbateurs endocriniens et qui vont affecter évidemment la fertilité ou la reproduction. Donc ça devient petit à petit également un problème de santé publique et qu'il faut absolument traiter.
Laurent Balesta, un milieu, la Méditerranée, que vous connaissez bien, qui subit de nombreuses atteintes, hein, d'ailleurs. On parle du plastique, mais on peut lister ces atteintes. Développement du trafic maritime, la surpêche, donc la pollution en hydrocarbures aussi, ou autres produits chimiques, le réchauffement climatique, et puis
les nuisances sonores aussi sur le littoral, qui perturbent énormément la biodiversité. La liste est aussi longue que déprimante. Je ne sais pas si c'est que je fais l'autruche, mais moi, j'ai même plus envie de les lire, tous ces rapports, en vérité. Bon, peut-être parce que j'ai accès à la réalité de cette situation, parfois au quotidien, lors de nos missions. Donc, je sais ce qu'il en est, et c'est déprimant. Donc, je ne sais pas si c'est une démarche de Don Quichotte, mais moi, mon ambition, c'est l'inverse, quoi. C'est d'essayer de montrer qu'il y a encore des zones luxuriantes, plus incroyables encore, qu'il y a même encore des sites en Méditerranée française vierge d'exploration. Ça paraît fou, quoi, hein, le berceau de l'humanité, en train de devenir la poubelle des civilisations, mais berceau de l'humanité, où il y a 4000 ans que les gens naviguent, même plus que ça, que les gens décrivent la faune sous-marine, il n'y a qu'à voir les dessins dans les grottes. Donc, on y est depuis toujours. Et ben, même en Méditerranée française, on peut encore s'y croire, dans le sens, on peut encore se prendre pour un vrai explorateur. Il y a encore des sites vierges d'exploration, tout simplement parce que c'est la caractéristique principale de l'eau de mer, c'est qu'elle est impénétrable et que à peine une centaine de mètres de profondeur, et ces écosystèmes sont presque inaccessibles à un plongeur, ou alors de courtes incursions un peu frustrantes. Et donc il y a encore beaucoup de sites qui demandent à être explorés, à être visités, en tout cas, pour la première fois par des plongeurs.
Donc et c'est ce voilà, qui vous guide, en moteur, tout cas, c'est le rêve, matin, c'est voilà. Et c'est de continuer à découvrir ces endroits incroyables qui existent, parce qu'ils sont encore préservés, mais potentiellement, il faut les préserver aussi, hein, Laurent Balesta, de ces atteintes.
Après, on ne mettra pas la Méditerranée dans un aquarium fermé pour le protéger. Le concept des aires marines protégées, c'est extraordinairement efficace quand on en crée une, et quand on y met des vraies règles, hein, parce que créer des réserves administratives où on dit ceci est une réserve mais où les activités ne changent pas, voilà. Mais les réserves où on met vraiment des règles et où on surveille clairement avec des gens qui surveillent au quotidien, on le voit, il suffit d'une dizaine d'années pour que les animaux reviennent, que les animaux s'y reproduisent, qu'il y ait même un effet de débordement. Pour autant, les réserves n'échappent pas au réchauffement global, elles n'échappent pas à la pollution plastique.
Et ces conséquences, par exemple, de cette pollution, notamment plastique, vous les avez vues en plongeant, j'imagine, Laurent Balesta?
Oui, mais on pourra m'accuser de ça, mais je détourne le regard. Je le reconnais, hein, avec peut-être un peu de honte, mais certains font très très bien le job, à commencer par la WWF et d'autres ONG. Et moi, mon job à moi, c'est d'essayer de plutôt montrer qu'il y a encore des choses super belles, qu'il y a encore
qu'elles existent
des créatures
encore
qu'on n'a pas encore illustrées. Après, avec ma société Andromède Océanologie, on est en charge de suivi scientifique des écosystèmes de Méditerranée depuis 15 ans, où tous les 3 ans, on revient sur les mêmes sites, et on fait ça tous les ans. Et donc, on a un suivi de l'état des herbiers de Posidonie, qui sont un écosystème primordial, qui a une importance écologique irremplaçable. Les écosystèmes rocheux, le coralligène un peu plus profond. Et effectivement, les constats sont pas bons. Hein. Juste le cas de l'herbier de Posidonie, sur les 5 dernières années, à peine 5 ans, je ne parle pas de 30 ans, je ne parle pas d'un siècle, je parle de quelques années. On a vu sur certaines baies l'herbier régresser de 30% déjà. Ça veut dire que quoi? Une paire d'années de plus et c'est terminé, il n'y en a plus.
Ludovic Frère Escoffier, alors on parlera bien sûr plus avant de votre expédition à venir, Laurent Balesta. Pour l'instant, portons ce regard encore quand même sur ce rapport. Concrètement, dites-nous, la Méditerranée, c'est aussi plusieurs pays concernés. Qu'en est-il et où se positionne la France parmi ces pays-là? Bon élève, mauvais élève?
Tout d'abord, en effet, la Méditerranée, c'est un merveilleux foyer de civilisation. Et avec 160 millions de personnes donc, qui sont rassemblées sur le pourtour méditerranéen dans 22 pays, c'est un lieu également très cher pour les touristes, puisqu'on voit chaque année 200 millions de touristes qui se concentrent dans cette zone, avec évidemment des implications du point de vue environnemental, notamment sur la pollution plastique, comme nous l'avons montré, avec une augmentation de plus d'un tiers de la pollution plastique, et des impacts sur avec la dégradation de certains habitats pour la construction d'immeubles, avec des difficultés de collecte. Et nous montrons d'ailleurs dans le rapport que la pollution plastique a des effets également économiques, c'est-à-dire que quand il y a plus de plastique sur les côtes, sur les rivières, il faut les ramasser et ça a un coût économique pour les collectivités.
Oui, on trouve des chiffres dans le rapport. Impact estimé 40 millions d'euros, le tourisme. La pêche, impact estimé 12 millions d'euros. Le commerce maritime, 21 millions d'euros. Et puis le coût du nettoyage est estimé à 3 millions d'euros. Ça, c'est uniquement pour les côtes françaises.
Ça, c'est uniquement pour les côtes françaises. Si on parle des pays méditerranéens, on a estimé ça autour de 600 millions d'euros. Donc pour les différentes impact sur l'économie, donc au niveau du tourisme, de la navigation, c'est-à-dire ces sacs plastiques qu'on va retrouver qui vont bloquer des moteurs ou qui, et également les sacs plastiques que l'on retrouve, ou tous les déchets plastiques que l'on retrouve dans les filets de pêche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des pêcheurs qui vont tirer un filet avec quasiment la moitié de déchets plastiques qu'ils retrouvent sur le pont de leur bateau.
Et en sachant que les pêcheurs eux-mêmes ont leur responsabilité avec des filets en plastique et qu'on retrouve dans les mers et parce qu'ils ne sont pas ramassés.
Exactement. 80% à peu près de la pollution qu'on retrouve dans la mer Méditerranée, et ce chiffre se retrouve au niveau des différents océans, vient de la terre. Et la pollution donc des filets de pêche est importante puisqu'elle représente près de 10%, et également l'aquaculture, ce dont on parle un petit peu moins mais qu'on retrouve en Méditerranée. Après, la situation n'est pas la même selon les pays. Mais comme vous l'avez bien expliqué dans votre reportage, c'est vrai que la France est un gros producteur de déchets, le plus gros au niveau européen. Par contre, ils collectent plutôt bien, ce qui n'est pas le cas d'un pays comme l'Égypte, qui va représenter par les déchets qui sont drainés par le Nil en particulier jusqu'à la Méditerranée, près de 40% de la pollution de la Méditerranée. Et la situation n'est pas très bonne non plus en Turquie et en Italie. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il doit y avoir des mesures différenciées au niveau du bassin méditerranéen et des mesures prises en termes de collecte avec ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs, c'est-à-dire que des entreprises qui vont commercialiser des produits jetables, des petites bouteilles plastiques, doivent mettre la main à la poche pour qu'il y ait des systèmes de collecte qui se mettent en place dans les différentes collectivités et que ces plastiques puissent être récupérés avant d'être évidemment recyclés. Le problème, évidemment, il faut le traiter à la source.
D'une manière générale, comment se passe la gestion des déchets ? C'est-à-dire, il y a du recyclage, il y a du tri, il y a aussi de l'incinération. Si j'ai bien compris, ces procédés d'incinération sont également extrêmement polluants.
Oui, alors globalement, tout d'abord, c'est vrai qu'il y a une grosse déception sur le recyclage, puisque si chacun fait des efforts pour essayer de choisir la bonne poubelle, ce qui n'est pas toujours facile, il faut encore qu'elle soit là d'ailleurs au niveau des immeubles, simplement 22% du plastique est recyclé. Pourquoi ? Tout simplement parce que les industriels, en lien avec ceux qui vendent les produits ont complexifié les produits plastiques. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté toujours plus d'additifs, c'est-à-dire de produits chimiques, qu'ils ont mélangé différentes résines de plastique, et au bout du compte, c'est très compliqué pour recycler le plastique, ce qui signifie que le prix est très élevé. Donc le prix du plastique recyclé n'est pas compétitif, c'est pour ça qu'il est aussi faible. Ensuite, sur le reste, le plastique est enfoui ou incinéré, enfoui avec les problèmes notamment sur les nappes phréatiques qui deviennent de plus en plus importantes, et nous savons qu'avec les changements climatiques, il y a une vraie pression sur la source de l'eau, une vraie pression sur les nappes phréatiques, et si elles commencent à être polluées, c'est évidemment extrêmement négatif. Et l'incinération, comme on comprend tout à fait naturellement, sont des émissions donc de gaz à effet de serre. Donc c'est très clair que le meilleur plastique, c'est celui qu'on ne consomme pas, ce qu'on dit exactement également pour le carbone, et nous devons complètement changer d'état d'esprit par rapport à l'utilisation de cette matière qui est en effet a beaucoup de particularités, qu'on va retrouver dans le milieu médical, qu'on va retrouver dans le milieu alimentaire, avec un boom ces dernières années, puisque 40% du plastique est aujourd'hui utilisé dans l'emballage. Donc il faut revoir
le problème,
notre
c'est ça,
lien
c'est le plastique à usage unique, et la moitié du plastique est utilisé pour créer des produits jetables dont la durée de vie est inférieure à 3 ans. C'est-à-dire aujourd'hui on en est là, les emballages, etc. C'est-à-dire que il y a possibilité, non pas forcément de bannir complètement ce produit qui a des vertus ou des utilités dans la société, mais de revoir notre comportement. On va en parler avec vous, bien évidemment, Ludovic Frère-Escoffier. Pour l'instant, on va se donner un petit peu de bonheur, comme disait Laurent Balesta, parce que cette Méditerranée, elle est encore magnifique aussi par certains côtés. Il faut la préserver. C'est le message que le WWF passe. Mais partons avec vous sur voilà, le lieu qui va vous abriter pendant un mois à peu près.
Ça fait tellement d'années que j'y pense. Et là, on va faire notre première tentative, en tout cas notre premier essai, où on va descendre avec une tourelle de plongée à saturation, mais pour sortir en autonomie avec nos scaphandres recycleurs. Alors c'est ça qui est nouveau, c'est ce mariage de ces deux techniques de plongée qui depuis toujours se sont ignorées en fait.
Extrait d'un reportage diffusé sur France 3 le 18 octobre dernier, Laurent Balesta. Concrètement, vous êtes à la veille d'un rêve, c'est ça ?
Oui.
Qui va se concrétiser, ouais, c'est-à-dire se réaliser en juillet, on a bien compris.
En tout cas, d'une idée qui est née il y a 18 ans. Alors peut-être que je ne suis pas doué pour les mettre en... je suis un peu lent, mais c'était tellement compliqué quand même à mettre en place cette idée toute simple de détourner les moyens de la plongée industrielle, on va dire. D'ailleurs, dont l'usage n'a jamais été que l'exploitation de la ressource. Et tout à coup, le détourner pour faire non plus de l'exploitation de la ressource, mais de la conservation des ressources, ou en tout cas de l'illustration, de la sensibilisation, de l'exploration. Sur le papier, comme ça, c'était assez noble comme démarche, ce détournement. Après, techniquement, c'était très compliqué, parce que le but était en même temps de ne pas utiliser tout à fait la même technique, mais bien de la marier avec notre façon de plonger. C'est-à-dire que le scaphandrier offshore, quand il sort de sa tourelle au pied de la plateforme, même par 200 mètres de fond, il sort avec un énorme ombilical, un gros casque de chantier, il fait ce qu'il a à faire. Moi, le but, c'était que je reste le plongeur autonome que j'ai toujours été, donc avec mon scaphandre recycleur électronique 2.0 très léger, qui me donne une vraie liberté de mouvement, de déplacement, d'observation. Et alors, mélanger ces deux choses-là, c'était techniquement complexe, pour des choses aussi bêtes que, par exemple, nos scaphandres ne passent pas à travers la porte de ces caissons, ils sont trop gros. Et donc, il a fallu inventer des systèmes parallèles. Il y avait des complications, j'allais dire, d'ordre administratif, parce qu'il fallait trouver un cadre légal à ces plongées qui sont extrêmement cadrées, tout ça. Donc, évidemment, le seul cadre qui pouvait, c'était le cadre expérimental. Et heureusement, l'Institut national de la plongée professionnelle a ce statut de laboratoire d'essai. Donc, c'est une expérience qu'on mène en cadrant tous les risques le plus possible.
Donc, vous serez 4, d'ailleurs.
Oui, on sera 4. Et puis, il y avait tout simplement aussi un problème tout bêtement financier, c'est que cette plongée-là coûte très très cher, qu'elle a toujours été réservée précisément à ceux qui avaient beaucoup d'argent, c'est-à-dire le offshore, le pétrolier. Et donc, pour aller regarder comment c'est beau, on nous donne moins d'argent. C'est bizarre, hein,
Il n'était pas partant, non.
Non, bah, c'était compliqué. Mais au final, n'empêche que voilà, petit à petit, on a trouvé des solutions. Moi, il se trouve que quand même depuis quelques années, les partenaires me font de plus en plus confiance. Et donc, on a réussi à mettre ça en place. Et depuis 2 ans, on travaille plus sérieusement sur le projet, pour résoudre tous ces problèmes-là. D'abord technique, ça c'est assez passionnant, faut trouver des solutions, transformer nos scaphandres, etc. Ça c'est sympa. Le cadre légal de tout ça, c'est bon, c'est franchement pas très intéressant, mais il faut le faire pour que tout ça se fasse comme il faut.
Sereinement.
Et puis aller raconter cette histoire à tous mes partenaires pour qu'ils m'aident financièrement à le faire. Voilà. Donc il y a quand même cette ambition de, ben, par exemple, cette surveillance des écosystèmes dont on a la charge depuis 15 ans avec l'Agence de l'eau. L'Agence de l'eau nous fait confiance depuis toutes ces années pour suivre l'état de santé de ces écosystèmes littoraux méditerranéens. J'ai eu juste à leur dire, ben, on le fait à 20 mètres, on le fait à 40 mètres, on le fait même à 50 mètres.
Et vous allez pouvoir descendre jusqu'à 120
Jusqu'à 120 mètres, même au-delà, puisque quand on sort, on a une certaine autonomie.
Donc on a rajouté une ligne. 1% de la lumière, c'est ça, hein ?
Oui, c'est ce qu'on peut appeler la zone crépusculaire, que les scientifiques appellent l'étage mésophotique, l'écosystème circalittoral. Effectivement, ce sont ces écosystèmes où on n'est pas dans le noir des abysses, on est dans encore un résidu de lumière, moins d'1% de la lumière de la surface, mais 1% qui est suffisant à l'évolution, à la croissance de ces récifs profonds que sont les... Moi, j'aime bien dire les récifs coralliens de la Méditerranée. Alors, je suis biologiste de formation, donc je dois dire les récifs coralligènes. Parce que ce ne sont pas, ces récifs-là, en Méditerranée, ne sont pas fabriqués que par des coraux madréporaires comme sous les tropiques. Il y a finalement une plus grande variété d'animaux constructeurs sur ces récifs méditerranéens. Ça va évidemment des coraux, mais c'est aussi des algues calcaires qui font d'ailleurs de très belles formations foliacées, violettes. C'est aussi des éponges calcaires, des mollusques, des vers marins, et tous ces animaux ensemble fabriquent eux-mêmes leur propre écosystème. C'est ce qu'on appelle donc ces récifs coralligènes qui sont très riches. Il y a des endroits où on a compté plus de 1000 espèces par mètre carré. Simplement, c'est pas aussi accessible qu'un récif corallien qui frôle la surface. Ça commence à 60 mètres de profondeur, ça s'étend jusqu'à 120 mètres, et donc c'est difficile d'accès.
Donc ça veut dire que vous allez quand même nous renseigner aussi sur faire un état des lieux finalement de cette faune, de cette flore qui existe selon les niveaux et en plongeant sur 4 ou 5 sites, hein, c'est ça ?
Oh non, beaucoup plus que ça. D'ailleurs, le choix était douloureux, puisque ces écosystèmes profonds en Méditerranée, ça fait bientôt 20 ans que j'aime aller les visiter. Alors avec un sentiment de privilège, parce qu'il y a 20 ans, on était les premiers à le faire, à ces profondeurs-là. Et un sentiment de frustration, parce qu'à l'époque, je plongeais 10, 20, 30 minutes à ces grandes profondeurs pour 4, 5 heures de décompression à la remontée, plutôt pénible et même un peu dangereux. Alors c'était frustrant. Imaginez un botaniste qu'on envoie dans une forêt tropicale et on lui dit « t'as 10 minutes, après il faut ressortir ». Quelle frustration et qu'est-ce qu'il connaîtrait de la forêt dans ces conditions-là. Donc là, avec ce nouveau moyen, on va s'affranchir complètement des paliers de décompression quotidiens. Et donc, on ne se soucie plus du temps qui passe au fond. On va pouvoir passer 1, 2, 3, 4 heures. J'espère même que si on prend l'habitude de réussir à faire 2 fois 4 heures dans une journée. C'est peut-être ambitieux, mais c'est pas totalement irréalisable. Et surtout parce qu'on n'a plus les paliers à faire. Quand on a fini notre plongée, quand on a fini notre balade de 4 heures, au lieu de remonter et faire des paliers, on rentre dans une sorte d'ascenseur, une tourelle pressurisée qui nous ramène un caisson de vie lui-même pressurisé. Alors c'est petit, hein, 5 mètres carrés à 4. Mmh. Et puis là, on se repose, on se nourrit, et puis dès qu'on est d'attaque, on redescend. Et ça, durant 4 semaines.
Ludovic Frère-Escoffier, une réaction peut-être, hein. C'est vrai que là, c'est la part de rêve quand même.
Oui, bien évidemment, il y a une part de rêve, de toute façon, de la nature qui nous entoure. Et la particularité de l'océan, c'est qu'il est accessible à peu de monde, évidemment. Et c'est cette troisième dimension, et on a besoin justement de personnes comme Laurent Balesta et de scientifiques qui nous montrent justement la richesse de ces écosystèmes. C'est vrai que la mer Méditerranée a un potentiel extraordinaire. Nous, notre rôle d'ailleurs avec l'expédition Cap Cétacé, c'est de mieux connaître également le comportement des mammifères, puisqu'on étudie aujourd'hui non seulement la pollution plastique, mais également le comportement donc de ces mammifères vis-à-vis du transport maritime, pour qu'ils puissent faire des recommandations au transport maritime, notamment la réduction de la vitesse, hein, qui peut être toute simple à mettre en place et qui devrait l'être. Et on bataille beaucoup d'ailleurs au niveau national et international pour que cela se fasse. Donc évidemment que la science, on en a besoin justement pour montrer la richesse de ces écosystèmes et de mieux connaître également toutes ces activités économiques. Puisque depuis plusieurs années, le WWF met en évidence ce qu'on peut dire de façon très simple, c'est-à-dire que la Méditerranée est à bout de souffle, puisqu'elle elle concentre une bonne partie du transport maritime mondial. Elle concentre de plus en plus d'activités de forage pour le pétrole ou pour le gaz, avec notamment des actions du WWF en Grèce contre des forages, notamment la compagnie Total. Il y a également donc toute cette implication donc du tourisme, des ressources halieutiques qui sont dans des situations complètement catastrophiques, puisque souvent on parle au niveau du grand public, quand quelqu'un entend une espèce exploitée ou surexploitée, on a du mal à faire la différence. Mais là, c'est 90% des ressources halieutiques qui sont surexploités, c'est-à-dire d'un point de vue biologique, qui peuvent justement ne plus se reproduire et s'effondrer, comme on prend toujours l'exemple donc de la morue, du cabillaud donc au large du Canada. Donc la situation est particulièrement problématique, et à cela vient s'ajouter justement la pollution plastique. 247 milliards de micro-fragments plastiques se retrouvent dans cette mer Méditerranée. Donc c'est une poubelle à plastique d'une certaine façon, et on retrouve une partie de cette pollution également au fond des mers.
Et dans le sable des plages.
Et bien sûr, également, dans le sable des plages, une grande partie, plus de la moitié, vient évidemment de la pollution des côtes et également des rivières. Et donc, petit à petit, malgré ces sonnettes d'alarme qui ont été tirées, malgré la multiplication des rapports, force est de constater que l'organisme qui est en charge, au niveau méditerranéen, de mettre en place des mesures pour l'environnement, cette convention des mers de la mer Méditerranée, qui s'appelle la Convention de Barcelone, à l'endroit où elle a débuté sa vie, n'a pas réussi à mettre en place suffisamment de mesures et pour protéger cette mer Méditerranée avec des vraies aires marines protégées, comme le disait Laurent Balesta, c'est-à-dire avec des systèmes de gestion et des zones où l'on protège, puisque finalement, au niveau océanique, c'est un petit peu plus facile que sur Terre, puisqu'il y a des zones de foyers de vie, comme on disait, au niveau des coralligènes, des posidonies. Donc c'est des zones qui sont facilement, entre guillemets, identifiables. Donc pourquoi on ne va pas plus loin, et pourquoi on ne dit pas ces zones sont à protéger, et ensuite d'ailleurs, les activités économiques peuvent en bénéficier, le monde de la pêche peut en bénéficier.
Qu'est-ce qui freine en fait, parce que vous dites qu'on n'a pas réussi à le mettre en place?
D'abord en France, puisque c'est une pratique de l'aire marine protégée qui était plus basée sur la concertation entre acteurs, en oubliant le principal, c'est-à-dire l'écosystème. C'est-à-dire que on mettait en place et on continue à mettre en place des aires marines protégées en disant regardez, là il y a un périmètre, mais on pratique quasiment les mêmes activités. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on utilise le terme, mais on utilise des termes en disant qu'on fait de la gestion, mais on ne va pas protéger les zones de vie qui sont essentielles et qui vont permettre d'ailleurs d'avoir des bénéfices socio-économiques. Le CNRS a montré que sur les 22% d'aires marines protégées qu'on trouve en France, donc avec les DOM-TOM, on est à moins de 0,2% réellement protégé. Donc quand on dit réellement protégé, c'est-à-dire qui sert à quelque chose pour la protection de l'océan. Donc on en est là.
Laurent Balestin.
Et qui, dans un second temps, servent ceux-là même qui parfois s'y opposent. C'est-à-dire que ces zones protégées ont ce qu'on appelle un effet de débordement. Quand on protège une zone d'une certaine ampleur, c'est l'avantage du milieu marin, sans doute. Il se repeuple peut-être beaucoup plus vite qu'un milieu terrestre dégradé. Les animaux reviennent, il n'y a pas besoin de plus qu'une génération. Moi, je me souviens plonger gamin dans la réserve marine de Cerbère-Banyuls. Quand j'y replongeais 15 ans plus tard, c'était clairement visible que la biomasse et la biodiversité s'étaient multipliées sur ces sites. Il faut peu de temps, 10-15 ans, quand le site est bien protégé. Et l'effet de débordement fait que, comme tout à coup il y a cette abondance dans une zone protégée, forcément il y a de la migration, c'est-à-dire ces poissons s'en vont ailleurs, il y a même plus assez de place pour eux à l'intérieur de la zone protégée. Et c'est les pêcheurs autour qui en bénéficient, à tel point aujourd'hui que là où il a été compliqué d'aller contre les pêcheurs pour créer une aire marine, en tout cas dans ce cas précis, ce sont les pêcheurs qui portent l'idée de protéger d'autres zones. Parce qu'ils savent qu'ensuite, dès qu'ils mettent leur filet autour, c'est tout bénef. Et je crois qu'il y a certains savants qui font des travaux d'extrapolation et qui parlent d'un chiffre, alors qui varie un peu, est-ce que c'est 15%, est-ce que c'est 30%, ils disent que si on arrivait à protéger 30% de l'océan mondial, ou 20% de l'océan mondial, ce qui serait produit dans ces 30% permettrait de subvenir aux besoins d'une pêche raisonnable autour. Mais alors, il faut casser des cercles vicieux pour pouvoir mettre ce genre de choses en place. Et alors là, ce sont des combats qui me dépassent.
Vous réfugiez dans les profondeurs de la mer et vous laissez Ludovic Pierre-Escoffier partir au front.
Oui, c'est vrai que ce chiffre est... Enfin, c'est plus qu'un chiffre, c'est-à-dire que c'est une conception finalement de la gestion de l'océan. Donc c'est les scientifiques de l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est vrai que c'est ces 30% bien choisis, évidemment, là où il y a un potentiel écologique fort, là où il y a souvent en effet des menaces, puisque quand il y a un potentiel écologique fort, souvent il y a une pêche qui est importante. On n'est pas contre la pêche, mais elle doit se faire dans certaines conditions, et il suffit de bien connaître les stocks. Ce qui est assez incroyable, c'est que la science halieutique, elle est aujourd'hui connue, c'est-à-dire que les actions à mettre en place, on les connaît. Simplement, il y a une inertie politique, il y a un manque de concertation, et les dernières annonces qui avaient été faites après l'IBES par le président de la République Emmanuel Macron, demandant 10% de pleine naturalité, donc dans les aires marines protégées.
Donc l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC, de la biodiversité.
Il y a une conférence de presse qui a été mise en place le jour même. C'est très bien, mais ensuite il va falloir définir justement ces zones, et parfois on a besoin de plus de 10% de la protection. Donc il faut se concerter. Les scientifiques sont là, c'est-à-dire que c'est pas non plus quelque chose où il va falloir refaire des études scientifiques. Il faut avoir, au-delà du courage politique, la volonté, et avoir un peu de suie dans les idées, c'est-à-dire mettre autour de la table les bons acteurs. Et pour ça, d'ailleurs, il existe en Méditerranée, comme sur toutes les façades, une concertation au niveau des façades maritimes. Mais force est de constater que on n'arrive pas encore assez à faire entendre notre point de vue.
Laurent Balesta, est-ce que vous allez emmener de la musique dans cette immersion d'un mois ?
Alors, je vais amener beaucoup de lectures et un peu de musique aussi.
Et aujourd'hui, vous voulez nous faire partager un des morceaux peut-être qui vous aide ou que vous aimez ?
Oui, ça s'appelle « Tant qu'il y aura des ombres ». L'ombre, c'est un poisson de rivière. C'est une chanson de Renaud, et où le poète sent bien que l'échéance est proche, quoi. Mais qu'en même temps, il faut rester des chevaliers de l'onde. Alors ça me plaît beaucoup.
Tant qu'il y aura des ombres des truites et des vandoises, croule la terre, craque le monde, nous irons dans les eaux turquoises, les rivières profondes. Du matin clair au soir qui tombe, quand le ciel soudain s'embrase, nous sommes et resterons bon nombre à guetter la bête sournoise et ses reflets d'argent dans l'ombre. Tant qu'il y aura des ombres, nous les deux pieds dans la vase, oublierons pour quelques secondes qu'il ne changera jamais de base cet abominable monde.
Et c'est la suite de notre émission sur France Culture consacrée aujourd'hui à la mer Méditerranée, à ses richesses. mais aussi aux pollutions qui la menacent, et notamment celle du plastique dénoncée par le dernier rapport de WWF. Et avec nous, Ludovic Frère-Escoffier, responsable du programme Vie des Océans ou WWF France, et puis Laurent Balesta, biologiste, spécialiste de l'écologie méditerranéenne, plongeur professionnel, photographe naturaliste et auteur, notamment, je cite, ce coffret qui est magnifique, Laurent Balesta, le DVD 700 requins dans la nuit, réalisé avec Luc Maresco, et puis le livre du même nom chez Andromède, Océanologie, et donc vous allez vivre cette expédition Combessa 5, on vous suivra cette immersion dans les profondeurs de la Méditerranée, ce sera en juillet. On en reparle dans un instant, c'est juste après notre revue d'info environnement. Et pour rester sur notre thématique, le Canada a annoncé vouloir interdire les plastiques à usage unique dès 2021. C'est son premier ministre Justin Trudeau qui en a fait l'annonce, précisant que la liste des produits à bannir sera établie après des évaluations. Comme parents, on amène nos enfants à la plage, il faut chercher du sable qui n'est pas rempli de plastique, de bouteilles, de styromousse ou de paille, a-t-il déclaré, faisant aussi référence à un autre constat dramatique, celui qui fait que dans le monde, 1 million d'oiseaux et plus de 100 000 mammifères marins sont blessés ou meurent à cause des déchets plastiques. A précisé encore que le Canada a validé le 10 juin dernier un projet de loi interdisant la captivité et l'élevage de cétacés comme les baleines et les dauphins. Il ne reste que l'approbation royale symbolique pour acter cette décision. Autre information à l'honneur, les lauriers 2019 qui seront remis lundi soir par la Fondation de France à des associations qui s'engagent au quotidien et contribue à une vie meilleure. Et parmi les lauréats, un projet agriculture durable qui se passe dans les Vosges. Le Teaser Lab, situé à Mirecourt et qui vise à favoriser l'émergence d'une agriculture durable, d'une alimentation saine et puis à faire travailler aussi ensemble un écosystème d'acteurs locaux, le tout dans une région difficile, c'est à découvrir sur notre site. Qui remporte la palme du moins de notre sélection cette semaine? La jungle des labels de finances durables. Ces labels de finances durables, il est bien difficile de s'y retrouver. Aussi, le site Novetic publie son panorama après les avoir tous passés en revue. Un panorama utile en attendant que la Commission européenne crée dans les mois prochains une nouvelle catégorie d'écolabels pour les produits financiers. Et le plus de la semaine revient à un chouette petit livre, Tous acteurs de la révolution verte. C'est son titre et un livre que l'on doit au collectif de jardiniers urbains intitulé Merci Raymond. Et cet ouvrage, eh bien, il donne plein d'idées pour rendre nos villes plus vertes, renforcer le lien social grâce à des actions de jardinage dans les écoles ou dans les zones urbaines sensibles. Des initiatives positives dans cette transition écologique en cours. Un livre édité chez Marabout.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Est-ce que vous voulez réagir, messieurs, à l'une de ces informations ou pas du tout? C'est votre choix, votre liberté.
Sur le Canada, juste un petit éclairage, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de pays qui bannissent ces produits donc à usage unique. D'ailleurs, pas simplement en Europe ou dans les pays occidentaux, également en Afrique, que ce soit au Kenya déjà depuis de nombreuses années. Hélas, pas assez en Asie, puisqu'une grande partie de la pollution plastique se retrouve en Asie, avec des photos particulièrement choquantes des lieux mythiques complètement surpollués. Et c'est vrai qu'on va, j'espère, revenir sur la nécessité de limiter la production, de la réduire de façon très drastique et d'arriver sur des solutions un petit peu plus concrètes.
Laurent Balesta ?
C'est vrai que quand on parle de l'Asie comme ça et qu'on me dit que la Méditerranée est la mer la plus polluée et qu'on voit ces images hallucinantes de certaines zones d'Asie, en Inde, aux Philippines, en Indonésie, je ne sais pas si c'est parce qu'on regarde que chez nous ou si c'est la réalité. Et puis il y a ce distinguo à faire entre le plastique, le macro-déchet visible, qui a un effet mécanique visible, on le comprend, la tortue qui est prise dans le plastique ou qui a sa paille dans la narine, enfin on l'a tous vu ça, on comprend souvent moins que simplement faire une machine à laver. Nos habits sont faits à moitié de fibres de polyester, de plastique, de fibres synthétiques. Et donc, il suffit de laver son linge pour envoyer ces microparticules jusqu'à la mer, quoi. Quand on prend conscience de ça, c'est terrible aussi d'impuissance. Comment faire? Et alors, il faut s'habiller que en coton,
il faut que les industriels mettent la main à la poche pour cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver dans un pays, commercialiser des produits et repartir.
Ouais.
Ça, c'est plus possible. C'est-à-dire que ce système de collecte, il doit être abondé par les industries qui sont sources de cette pollution, ça c'est très clair. Aller une station d'épuration n'est pas obligé non plus de faire des grosses stations d'épuration. Maintenant, il y a des solutions qu'on appelle solutions fondées sur la nature, donc qui demandent un petit peu moins d'investissement au départ et qui sont plus faciles également à entretenir. Et c'est vrai que cette pollution plastique invisible dont parle Laurent Balesta, ces microparticules qu'on retrouve dans l'océan, il faut mettre en place des moyens techniques pour essayer de la limiter. Et donc là, il y a de la recherche qui est faite au niveau que ça soit des machines à laver comme des stations d'épuration. Mais c'est vrai qu'il faut changer de paradigme dans le sens où on ne peut plus mettre des produits sur le marché sans se soucier de leur collecte, sachant que le plastique est un produit qui ne vaut pas cher. La preuve, on peut commercialiser des petites bouteilles dans le monde entier à des prix où quasiment tout le monde peut y avoir accès, même si des personnes vont mettre une journée pour se payer la petite bouteille en question. Et ensuite, c'est vrai qu'on a également une responsabilité, c'est-à-dire que une partie des déchets était exportée vers l'Asie. Alors évidemment, il y a la production nationale. D'ailleurs, la Chine a refusé une grande partie maintenant de ses exportations, également la Malaisie. Et il va falloir justement qu'on revoie ce système de collecte et une nouvelle fois de production pour la réduire et être dans le réemploi. C'est-à-dire qu'il faut revenir à d'autres façons de concevoir notre consommation.
Alors les solutions, Ludovic Frère-Escoffier, donc vous disiez donc le recyclage, recycler 60% des déchets plastiques, donc la récup, la réutilisation, le réemploi, et ce qui pourrait créer, c'est ce que vous annoncez, en tout cas WWF France, 1 million d'emplois.
Ce qu'il faut d'abord, c'est qu'il y a une loi sur l'économie circulaire en France, anti-gaspillage, il faut qu'il y ait des objectifs de réduction. Parce qu'on ne peut pas mettre... faire une loi en disant qu'il faut réduire la production sans indiquer un certain nombre de chiffres. Donc ça ne se fait pas en effet du jour au lendemain. Il aurait fallu faire un travail préparatoire par type de production. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Comment est-ce qu'on peut le faire? Quelle transition? Ensuite, au niveau des industries qui fabriquent tous ces produits, il y a un système de simplification. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir sur le marché des produits qui sont trop complexes et trop difficiles à recycler parce qu'il y a trop de produits chimiques, parce qu'on va mélanger différents type de plastique qui fait qu'au bout du compte c'est quasiment impossible à recycler et que le plastique recyclé vaut trop cher.
Mais tout ça passe par des lois et des interdictions.
Ben oui, c'est-à-dire qu'il faut passer par la réglementation. Après, on peut avoir également un petit peu d'incitation économique en jouant sur le levier du marché avec le système de bonus-malus, où plus un produit va détenir de plastique recyclé, moins il sera cher, moins il sera taxé. Donc ça, c'est également intéressant. Et c'est vrai que, évidemment, chacun de nous a une responsabilité. Mais si on n'avait pas interdit les sacs plastiques à usage unique, s'il n'y avait pas eu cette directive au niveau européen, de toute façon, on continuerait à en voir partout. D'ailleurs, il y en a encore qui sont commercialisés. Donc, il faut légiférer. Et ensuite, penser, en effet, son environnement un petit peu autrement. En étant chez vous, vous allez dans votre salle de bain, vous allez dans votre cuisine, vous regardez autour de vous, et c'est vrai que le plastique a envahi notre univers. Il y a une application qu'on a mis en place au niveau du WWF pour aider justement les citoyens à y voir un petit peu plus clair, pour les éco-gestes, qui s'appelle We Act for Good, WAG, et qui peut aider à y voir un peu plus clair, mettre en place des actions de bon sens, comme celle du réemploi, c'est-à-dire qu'on peut prendre une bouteille d'eau en verre, la re-remplir, la boire, et ainsi de suite. On n'est pas obligé à chaque fois de passer par le plastique, et ça pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits.
Oui, donc la solution des consignes, c'est pas forcément la solution.
La solution des consignes, d'abord, c'est pas uniquement pour le recyclage. C'est-à-dire qu'on va pas simplement acheter une petite bouteille, par exemple, utiliser en contenant, la remettre dans une machine qui va repartir ensuite dans un système pour qu'elle soit recyclée. Alors on peut utiliser ces machines pour les consignes pour faire du réemploi. C'est-à-dire que la même bouteille soit réutilisée avec un nouveau contenant. C'est une autre façon de penser également l'économie, parce qu'il y a une pression de plus en plus importante sur les ressources. Donc il faut penser à réutiliser et également à consommer moins pour un certain type de produit.
Laurent Balesta, vous avez pensé à cette question du plastique d'ailleurs dans la station?
Oui, ça fait partie des protocoles scientifiques qu'on devra mettre en place. Ils sont nombreux, hein, il y en a vraiment beaucoup, mais plusieurs touchent aux pollutions. Donc au cours de ces sorties de plusieurs heures, on doit aussi réaliser des transects vidéo pour faire une estimation de la pollution plastique des macro-déchets en général sur ces zones profondes. Parce que la zone littorale est assez facile à expertiser, parce que c'est au bord, parce que voilà. Les zones très grandes, les grandes profondeurs abyssales ne sont pas les plus difficiles à expertiser, parce que c'est jamais que des plaines de vases, donc on peut y faire du chalut scientifique, enfin du prélèvement scientifique, ça, c'est pas si compliqué. Par contre, cette zone crépusculaire, chaotique, rocheuse, est beaucoup plus complexe pour des machines, pour des robots, pour aller voir ça. Donc ça a vraiment du sens de faire ces transects vidéo pendant nos sorties. Donc, il y a ça, et puis aussi là, on va aller visiter plusieurs rejets d'eau usée, enfin d'eau traitée, enfin le terme est... plusieurs émissaires d'eau à grande profondeur qui sont jamais visités. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pour la plupart à la demande des collectivités elles-mêmes. Il ne fallait pas voir le méchant et le gentil. C'est la métropole de Nice, la ville d'Antibes, plusieurs qui nous ont dit ben, « ça tombe bien ». Dites-nous comment est notre rejet à 100 et quelques mètres, parce que finalement, il n'a pas vraiment été visité. Donc, on a aussi toute une série de prélèvements et d'observations à faire sur certains émissaires, comme ça.
Donc, si je fais le bilan de vos missions, hein, Laurent Balesta, donc redécouvrir la vie marine en Méditerranée, cartographier les fonds.
Oui, il y a la cartographie, on cartographie des fonds marins, ça se fait pas comme ça. Hein. Nous, c'est notre spécialité, mais ça fait plus de 15 ans qu'on fait des cartographies du littoral méditerranéen français, Corse incluse, où on a dû établir presque 80% des cartes des peuplements, qu'il faut renouveler parce que ça évolue en fait. Et donc ce travail, il va plutôt nous servir à localiser les endroits où on veut plonger, ce travail préalable. D'ailleurs, on a refait une grande campagne de cartographie cet hiver pour encore mieux préciser certaines zones à aller explorer. On va faire beaucoup dans la génétique des populations aussi. On est nombreux à penser qu'il y a un effet refuge dans la zone crépusculaire, qui est un peu paradoxal, parce qu'on sait que les productions primaires, là où il y a la base de la nourriture, c'est quand même plutôt près de la surface. Or, il nous semble, c'est peut-être qu'un feeling, mais que quand on est dans ces zones profondes, on voit des animaux de plus grande taille, on voit des animaux en plus grande quantité parfois, et il fallait pas beaucoup pour dire, mais alors, est-ce qu'il y aurait un effet refuge? Est-ce qu'il y a eu une migration ces 50 dernières années? En plus, le réchauffement climatique peut que les inciter peut-être à aller chercher des eaux plus fraîches, voilà. Et ça, la génétique des populations peut y répondre. On fait des prélèvements génétiques sur un groupe, langoustes, sarcomins, des poissons qu'on retrouve sur toute la hauteur. Et en comparant la génétique, on peut voir le lien de parenté, la séparation entre ces populations et voir s'il y a eu cette migration, s'il y a vraiment un effet refuge.
Oui, donc un effet refuge face à la colonisation galopante de l'homme cette Méditerranée,
Oui. Hein. Il y a une pression qui est quand même... Il y a une pression directe qui est plus grande dans les 30 premiers mètres que dans les 100 qui suivent, quoi.
Et donc, potentiellement, trouver des espèces rares aussi.
Ah oui, ça, c'est le...
C'est le rêve.
La dimension de plongeur naturaliste ou de photographe naturaliste, bien sûr, qui ne veut pas photographier un animal pour la première fois. Et ce qui est fou, c'est que l'océan et la Méditerranée aussi nous le permet. Je me rends compte, moi, que sur les 20 dernières années, chaque fois qu'on a fait une campagne de plongée un peu engagé, des plongées plus profondes, dans des endroits un peu laissés de côté, systématiquement, on est revenu avec quelques animaux qui n'avaient jamais été illustrés vivants avant. Alors, c'est des fois qu'une petite crevette de rien du tout, mais enfin, des fois, c'est le sélacanthe quand même. Ouais. Et ça, c'est passionnant. Ça, c'est sûr que c'est un de mes moteurs. Aller chercher des licornes au fond de la mer, c'est...
Oui, donc c'est un enjeu écologique et puis ce pouvoir de renseigner la recherche également. Allez, faites-nous vivre juste une journée. Comment ça va se dérouler, une journée peut-être telle qu'elle est sur le papier,
en qu'est-ce sachant que ça... Qu'est-ce
que j'en sais? Eh oui, vous êtes vraiment... Quoi, vous n'avez pas préparé
non,
tout ça?
On a fait un seul test au mois d'octobre, dans ces conditions-là, où on a fait une sortie de 4h30 à 60 mètres de profondeur, suivie de 42 heures de décompression. Alors là, sur le coup, c'est un peu cher payé, mais c'était pour se mettre en situation, pour voir comment on le vivrait. Honnêtement, on était dans une exaltation incroyable, c'était passionnant. Et donc, comment ça se passe concrètement? On se lève, donc on a chacun notre petite bannette dans nos 5 mètres carrés. C'est l'heure du petit déjeuner. Normalement, nous attend dans le sas de nourriture, dans le passe-plat étanche, de quoi nous restaurer. Ça sera pas très réjouissant puisque dans cette atmosphère d'hélium, tout est insipide. Hein, la nourriture n'a plus vraiment de goût. Donc ça sera un peu triste, mais c'est comme ça. Peut-être que ça nous évitera de trop manger en même temps. Voilà. Alors ça, c'est 5 mètres carrés, ce dont je parle. Ensuite, on passe dans le module sanitaire via un premier sas. Donc le sas, c'est 70 cm de diamètre, 1 mètre de long. Donc on passe à travers ça. On arrive dans le caisson, le module sanitaire. Toilettes, douches et nos vêtements qui nous attendent, nos combinaisons. On s'équipe énormément. L'eau est à 12 degrés à grande profondeur en Méditerranée. C'est de l'eau dont la température ne change pas entre l'été et l'hiver. 12 degrés, c'est pas non plus si froid que ça, mais à 13 bars de pression, à 120 mètres de profondeur, en respirant un mélange d'hélium qui est un gaz absolument pas isolant, au contraire, qui est calorifuge, la déperdition calorique est l'équivalent d'une plongée polaire dans de l'eau à moins 2 degrés. Le résultat, c'est qu'on s'habille de la même manière que lors de nos expéditions polaires. Une première couche de vêtements chauffants, 3 couches de sous-vêtements polaires par-dessus, et encore la combinaison étanche. Et malgré ce, on est gelé au bout de 3 ou 4 heures dans une eau qui ne fait que 12 degrés. Mais on oublie de dire que souvent, forcément, être humain, terrestre que nous sommes, on ne regarde que la température pour savoir si on aura froid ou pas. On ne se dit jamais, mais quelle est la pression ? Voilà. Mais la pression est un facteur de perte calorique. Donc ça, c'est... voilà. Et puis donc, une fois qu'on est habillé, on passe dans la tourelle à ascenseur. Là, c'est plus qu'un mètre carré, donc on est les 4 collés. Et on descend jusqu'à la profondeur d'exploration. Et là, on ouvre la porte. Elle s'ouvre toute seule, en fait, puisqu'elle arrive en équipression. C'est le seul moment où la pression dedans et dehors est la même, donc la porte s'ouvre d'elle-même. Et il ne nous reste plus qu'à sortir. Nos scaphandres nous attendent à l'extérieur, parce qu'il n'y a même pas la place pour les avoir à l'intérieur. Donc on s'équipe dans l'eau. Allez, on a fabriqué un panier en acier dans lequel nous attendent nos scaphandres que nous ont préparé l'équipe de surface, d'où une infinie confiance qu'il faut avoir en eux. Ce qui est quand même pas une chose anodine que de ne pas préparer son propre scaphandre. Ça, je n'ai jamais fait ça de toute ma vie de plongeur. Et là, il a fallu. Alors, on a fait ça de manière très cérémoniale. J'ai voulu une personne pour un plongeur à chaque fois. Yannick a choisi son frère Cédric. Thibaut a choisi sa bien-aimée Justine. Voilà, moi, j'ai choisi un de mes associés pour faire ça. Et donc, on met nos scaphandres et puis on part. Avec ce danger qu'on n'a plus d'ombilical, ce qui est notre liberté, mais comme toutes les libertés, ça a un prix. Et le prix, c'est qu'il faut quand même revenir à la tourelle. Donc, il y a tout un...
Ouais, ne pas se perdre. Voilà.
Après, on est des plongeurs autonomes. Ça effraie les plongeurs industriels, qui ont du mal à intégrer l'idée de plongeur autonome. Nous, s'orienter sous l'eau, décider de ce que l'on respire, de ce que l'on fait, de ce que l'on... Où on va, c'est le cœur de notre métier.
Même dans une eau où il n'y a que 1% de luminosité,
oui, oui, vous aurez... 1% de lumière, on voit très bien.
D'accord. Vous aurez quand même peut-être aussi des spots, des appareils photo, des matériels.
C'est le principe des phares d'une voiture. Si tu mets plein phare, tu vois 5 mètres devant toi, mais tu vois pas à bord. Donc, non, ce qu'il faut, c'est s'habituer à cette pénombre qui est sublime, hein, d'ailleurs. Et donc, on sort avec cette obligation de revenir. Alors, on a tout un... plein de paramètres, plein de techniques pour revenir. Fil d'Ariane, évidemment, mais ça a ses limites. Et surtout des systèmes acoustiques, une sorte de radar acoustique qui nous permet de revenir à notre tourelle. Et puis voilà. Et puis, une fois qu'on est revenu, on se déshabille à nouveau à l'extérieur. Enfin, on pose nos scaphandres, on rentre, on remonte, on passe au sanitaire, on se douche, on passe dans le module vie, on mange, on dort, et dès qu'on est en forme, on redescend.
Mais voilà. Toutes les données que vous avez collectées, en fait, chaque jour, vous devez les envoyer quand même.
Il faut voir que pour les 4 privilégiés, j'essaie de m'auto-convaincre qu'on est encore des privilégiés. Mais des fois,
vous pouvez donner le nom de vos collègues, d'ailleurs.
Yannick Gentil, Thibaut Roby, Antonin Gilbert, biologiste marin, plongeur tous, caméraman, enfin voilà, ils ont tous plusieurs compétences, évidemment. Donc, voilà, privilégié, prisonnier volontaire, je sais pas trop, on verra comment on le vivra. Mais pour que nous puissions vivre cette expérience, il y a plus de 30 personnes à l'extérieur. Il y a 7 techniciens de l'INPP, l'Institut National de la Plongée Professionnelle. C'est eux qui mettent à disposition toute la station batiale. Donc, les techniciens de l'INPP pour surveiller 24 sur 24. Hein, donc, ils se relaient en permanence le taux d'oxygène, qu'il n'y ait pas de fuite au caisson. C'est eux qui maîtrisent l'outil.
Et c'est eux qui vont faire en sorte de déplacer aussi la station sur les différents endroits.
Après, il y a un remorqueur. La station est sur une barge flottante tirée par un petit remorqueur qui nous amène à la verticale des sites que l'on veut explorer chaque jour. Voilà, donc ça c'est encore une autre équipe. Il y a l'équipe de terrestre d'Andromède Océanologie, mes propres coéquipiers du reste du temps, qui s'occupent de nos scaphandres, qui eux seuls connaissent vraiment ce qu'est la plongée autonome, qui vont nous surveiller de près aussi, qui connaissent bien notre façon de faire. L'équipe scientifique, il y a plusieurs chercheurs qui au quotidien attendent les prélèvements qu'on leur remonte pour les traiter immédiatement. Tout ce qui est prélèvements génétiques, il faut les passer à l'alcool tout de suite, etc. Et une équipe de tournage, évidemment, aussi très conséquente, parce que Arte a vraiment mis de très gros moyens pour produire ce nouveau et cinquième film.
Et oui, parce que ces images aussi, ces films, c'est cette façon aussi de sensibiliser, hein, de faire prendre conscience de ces richesses aujourd'hui.
En tout cas, de raconter, je pense, une jolie, belle aventure.
Ouais. Allez, tous les deux, on va bientôt se quitter. Mais avant de se quitter, faites-nous partager peut-être l'expérience la plus incroyable, hein, que vous ayez vécue dans cette mer Méditerranée. Ludovic Frère-Escoffier.
Non, l'expérience la plus incroyable, pour le coup, moi, elle est surtout de constater que d'année en année, on retrouve de plus en plus de micro-plastiques dans cette mer Méditerranée. 247 milliards, c'est absolument effroyable. Qu'il y a des moyens qui pourraient être mis en place, qu'on a une mer Méditerranée, évidemment elle est magnifique, et je me mets à la place de l'auditeur qui doit se dire, mais finalement est-ce qu'on parle de la même chose ? C'est-à-dire cet endroit absolument extraordinaire, et en même temps quand je donne les chiffres qui sortent des Nations Unies, hein, 90% des ressources halieutiques surexploitées, et aujourd'hui encore, le gouvernement de Macron...
Si je peux me permettre, il faut que les auditeurs ont le droit de douter de ma parole, mais pas de la tienne.
Ça je le laisse voir, c'est à eux de décider. Bon, en tout cas aujourd'hui, il doit y avoir un vote, enfin dans les jours à venir, sur la surcapacité de la flotte donc en Europe, et il y a encore un vote de la France qui va vers une augmentation donc de la surcapacité de la pêche, ce qui est absolument incompréhensible, hein, puisqu'on sait que les stocks sont dans de mauvais états. Donc on se demande parfois comment est-ce qu'on peut croire en un certain nombre d'annonces quand il y a justement des actions qui sont mises en place au niveau européen par le même État français qui vont à l'encontre de ce qui a été dit auparavant pour la protection de la biodiversité. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une cohérence au niveau des actions, au niveau des actes, au niveau de ce qui est mis en place en France et également ce qui est porté au niveau européen.
Donc c'était pas tant une expérience, vous deviez partager avec nous, c'est plutôt l'alarme.
Non, parce que j'ai pas l'expérience de Laurent Balesta, et je préfère parler de ceux que je connais, Laurent le fait très bien,
écrivant
les avis.
Laurent Balesta, une expérience incroyable dans ces fonds marins.
Il y en a eu beaucoup, hein, mais les premières, parce qu'elles sont souvent fondatrices de la vocation, quoi. Un double souvenir, un à l'adolescence. On sillonnait au large de ma région, au large de Montpellier, Palavas-les-Flots, Carnon-Plage, enfin on peut pas dire que ça soit des hotspots, hein, enfin c'est pas très réputé. On quadrillait avec notre sonar pour chercher une épave et on est tombé sur un troupeau de requins pèlerins. Le plus petit faisait 6 mètres de long. J'avais 17 ans. J'ai reconnu ces animaux tout de suite parce que j'avais lu tellement de livres. Donc je savais qui ils étaient, je connaissais leur nom scientifique, ce qu'ils mangeaient, tout, je savais déjà. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion, mais sans crainte, que je suis allé à l'eau avec ces géants. Moi qui avais été fasciné toute mon enfance par deux crabes, une sèche, un poulpe, ça me suffisait. Hein. Ça me suffisait même à raconter 1000 histoires d'ailleurs. Et d'ailleurs ça a fait un peu l'effet de Pierre et le loup, quoi. C'est-à-dire que je saoulais tellement ma famille avec mes histoires de plongée, avec trois fois rien. Quand je suis rentré ce soir-là, j'avais usé tellement mon stock de superlatifs que j'ai senti un scepticisme dans les yeux de mon entourage. En disant, ah oui, bien sûr, des requins de 6 mètres de long, mais bien sûr. Et donc, c'est là que j'ai compris que le discours suffirait pas et qu'il fallait que je fasse des images et des photos. Et donc, j'ai redoublé de patience pour réussir à faire des photographies, ce qui n'était pas évident à l'époque avec l'argentique et tout ça. C'est plus simple aujourd'hui quand même.
On va vous suivre en tout cas dans votre aventure, Laurent Balesta. Vous reviendrez nous en parler bien évidemment. Et je rappelle pour les auditeurs qui veulent déjà découvrir ces belles images dont vous parlez, hein, le coffret DVD 700 requins dans la nuit, réalisé avec Luc Maresco et édité chez Arte. Puis le livre paru chez Andromède Océanologie. Je précise aussi qu'il y a des expositions en ce moment. Océan, une plongée insolite, c'est à la Grande Galerie de l'évolution du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Et puis à venir, la mer XXL, ce sera à Nantes du 20 29 juin au 10 juillet au Parc des Expositions, bien évidemment. Toutes les informations, les liens vers WWF France, vers l'expédition Combessa 5, etc. Voilà, tous les liens, les informations, biographies sont à retrouver sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, téléchargement, réécoute à votre disposition. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, hashtag DCAFE, puis sur la page Facebook. Également, dimanche prochain, c'est la viande et sa consommation à l'échelle de la planète qui seront au cœur de notre émission, avec notamment Gilles Davot et Suzanne Dahl. Et dans un instant, c'est la suite de vos programmes sur France Culture. Vous retrouvez Être et Savoir et Louise Touré.